bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut.
Donc, on a un épisode spécial sur ce très bon film que toi et moi avons bien aimé, Vampire humaniste, chercheur suicidaire consentant.
Voilà.
Bouf, ouais, c'est de la mastication
ouais, c'est ça,
buccale.
Crampe à mâchoire. Le premier long-métrage d'Ariane ouais. Louis XVI.
Qui s'est fait connaître beaucoup dans le monde du court-métrage, nominé pour plusieurs prix, s'est fait montrer, voyager dans des festivals. Donc, et déjà, la bande-annonce nous avait quand même titillé, piqué notre curiosité. Je pense qu'on aime bien, un, les films récits d'apprentissage, on aime bien l'humour noir aussi, un peu décalé.
Ouais.
Donc,
Ben, il restait à savoir, ça serait quoi la dose d'horreur dans le film? Il n'y en a pas de temps. C'est pas une comédie non. d'horreur, c'est vraiment plus une comédie noire, mais sur thématique de vampires, mais ça propose un peu plus l'idée que, ben, à un moment donné, les vampires sont un peu blasés, puis ils ont la même vie que n'importe quel banlieusard qui élève un enfant, puis qu'ils ont une charge mentale, puis des choses comme ça. Là.
Moi, je trouvais qu'on retrouve un peu l'essence d'Adam's Family, Wednesday plus récemment, donc ce genre de personnage-là, un peu décalé dans une... société à part, puis c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le film aussi, donc on comprend que toute une société de vampires avec leur structure mais complètement en marge de la nôtre, mais je crois qu'il y avait vraiment des bonnes idées dans le film.
C'est, ben bref, c'est vraiment le film que j'espère que tout le monde va se donner la chance d'aller parce que c'est super accessible finalement comme film, c'est très charmant. C'est sûr, si vous avez peur des films d'horreur, il n'y a pas de problème, là. C'est pas ça, aucune embûche à avoir avec ça. Bref, ils sont de passage à Québec, une bonne partie de l'équipe, dont on a discuté avec eux, avec elles principalement, dont notamment les productrices Jeanne-Marie Poulain et Lynn Sander Egede.
Egede, oui.
Oui, nom danois.
On s'excuse encore.
C'est ça. Très intéressant aussi de voir le volet. Ben, un peu en arrière sur le terrain. On avait parlé un peu avec Dominique à l'époque de Les Chambres Rouges, mais c'est le fun quand on a la chance de discuter avec eux de leur travail. Puis, ben, pour ce qui est du cœur du film, Ariane Louis XVI, qui est donc la réalisatrice et co-scénariste, puis les deux comédiens et comédiennes principaux, Sarah Monpetit et Félix-Antoine Bénard. Fait que c'est comme deux entretiens différents qu'on vous envoie. Puis, il n'y a pas vraiment de spoilers, quoi qu'avec Ariane et les comédiens, on dissèque une des scènes, mais c'est pas...
Il n'y a pas de punch dans
ouais, ce... Oui, il n'y a pas de punch, là. Fait que je pense que c'est le genre d'entretien ou juste de parler de ce moment-là qui peut vous convaincre d'aller voir le film. Et sinon, ben, c'est un, comme d'habitude, c'est un genre de supplément sur les dessous du film et l'idéation derrière tout ça. Si vous êtes allé le voir au cinéma, film qui prend l'affiche le 13 octobre, le vendredi 13 octobre, et qui fait compétition direct à Taylor Swift.
Quand même.
Fait que voilà. Puis, ça peut être un bon doublé. C'est peut-être le nouveau Barbenheimer, Vampire Swift, Vampire Eras, je sais pas. T'avais-tu autre chose à ajouter?
Ben non. Je pense qu'on peut y aller sans tarder avec cette belle conversation. On reçoit donc pour cet épisode spécial du film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. On reçoit co-scénariste et réalisatrice Ariane Louis XVI et les comédiens Sarah Monpetit et Félix-Antoine Bernard. Merci à vous tous.
Merci.
Bénard.
Excuse-moi, merci beaucoup. C'est moi qui m'a dit.
Ah, ben c'est vraiment pas grave.
Tu prendras le blanc.
Le pour l'anecdote, le FNC a fait l'erreur aussi, fait que ça va.
Donc, hey, merci d'être avec nous. On va débuter ça avec toi, Ariane.
Salut.
T'es à la base de ce film-là. Donc, comment est venue cette histoire-là, ce récit d'apprentissage assez unique, ma foi?
Ouais. C'est venu comme une petite, une petite folie qui m'a passé par la tête en marchant tout bonnement dans le parc La Fontaine. Je change d'endroit à chaque fois où je marche.
On saura jamais.
Je me souviens pas où je marchais. Mais ça me faisait rire cette idée de. Mais c'est tout le temps comme ça que ça arrive dans ma tête. J'ai comme une prémisse qui tombe du ciel. Et cette vampire-là, incapable de mordre, et je me disais, tu sais, il n'y a aucune solution. Là. Quand tu es une vampire et tu ne veux pas mordre, c'est soit tu te laisses mourir, ou bien quoi? Ben peut-être que tu trouves des gens consentants, volontaires. Ouais. Donc, je sais pas, cette première slum m'amusait et je l'ai lancé à ma co-scénariste Christine Doyon. C'était la première fois qu'on écrivait ensemble, mais c'est une bonne amie, on a le même sens de l'humour, puis j'avais envie de travailler avec elle. Puis je me suis dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Trouves-tu ça bon? Trouves-tu ça drôle? Puis elle était très partante, ça l'a beaucoup fait rire. Puis au départ, on voulait faire un court-métrage avec ça, mais on était rendus toutes les deux à faire un long, là, c'est ça. Après plusieurs courts-métrages, c'était le temps de faire le saut, puis on trouvait que l'idée avait un souffle de long, puis il y avait tellement de personnages colorés qu'on pouvait développer autour de ça que voilà. C'est comme ça que c'est né, l'idée.
Mais c'est ton premier long, mais c'est pas ton premier projet cinématographique du tout, là.
Non,
est-ce que c'est la fin des courts-métrages ou ça dépend de l'idée que tu vas
avoir? Non, ben... Tu sais, je sais pas. Moi, je suis pas prête à... C'est comme je serais jamais prête à dire que j'aurai pas d'enfant. Puis je serais... Ça a peut-être pas rapport, là, mon parallèle, là, mais je suis pas capable de dire jamais d'envie. Mais non, mais les courts-métrages, c'est intéressant encore d'en faire, peut-être en deux longs ou dépendamment de l'idée, comme tu viens de dire. Mais pour l'instant, c'est plus des longs que je développe, ouais.
Et justement, attaquer un premier long-métrage, est-ce qu'on ressent une pression supplémentaire ou on attaque ça comme un court, mais c'est juste plus de jours de tournage, finalement?
Ben, c'est les deux. Tu sais, c'est... Tu le développes, c'est la même chose qu'un court, mais c'est juste plus long. Plus de jours de tournage et tout, mais c'est comme faire un marathon versus un sprint, mettons. Puis c'est aussi qu'il y a beaucoup plus d'argent impliqué. Donc, tu sais, il y a quand même une pression de plus parce que, tu sais, surtout que je sentais qu'il y avait quelque chose d'attendu autour du film, de par un, le titre, et deux, je sais que j'avais fait beaucoup de courts-métrages puis que tout le monde me disait, ben là, t'es rendu au long, Ariane, on a hâte de voir un long. Fait que ça mettre une petite pression, mais j'essaie de pas y penser parce que ça sert à rien. Puis j'ai pas de contrôle sur les attentes des gens. Donc, j'ai plongé là-dedans. Puis il faut dire aussi que comme on a eu notre financement assez rapidement, moi, je pensais pas tourner aussitôt le film. Donc, puis j'étais en burn-out en plus. Puis j'ai comme oublié que j'étais en burn-out parce que j'étais excitée de me faire dire oui pour mon film. Fait que tout ça, c'est comme t'as pas le temps de penser à rien. Tu fais juste faire « OK, go, on y va ». T'as pas le temps de réfléchir puis de te mettre trop de pression là, à travers ça.
Mais de toute façon, une fois qu'on est euphorique, ça guérit les burn-out, là, c'est ça en fait. Là.
Oui, c'est ça.
Dès
que tu
retrouves un sourire,
mais,
c'est fini.
Mais un moment donné, c'est parce que... T'es fatiguée. Moi, je me suis souvenue que j'étais en burn-out comme une semaine avant de commencer le tournage.
Okay.
Puis j'ai fait « Oh mon Dieu, ça fait 3 mois que j'ai pas dormi. C'est vrai, j'étais en burn-out. Je m'étais dit je prenais un break. » J'avais comme oublié. Mais là, le tournage commençait, puis ça me faisait peur. Puis en plus, c'était un tournage de nuit.
Mais c'est ça.
Mon médecin m'a prescrit des somnifères. Et j'ai passé mon tournage sur les somnifères. Et... voilà. Mais j'ai
somnifère
réussi à arrêter
de jour,
après.
Café de nuit pour
c'est ça.
Travailler,
c'est un
genre.
Excellent combo.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça.
Est-ce
voilà.
que... On va en venir aux comédiens aussi, mais justement, un tournage de nuit, toutes les scènes qui sont à l'intérieur, même si nous, on sait que c'est la nuit, vous les tournez de jour quand même, mettons, le bowling ou de quoi, ou vous pognez comme un travailleur de nuit, un beat que vous êtes comme finalement aussi bien être juste la nuit?
Puis... Quand on peut le faire de jour, c'est mieux de jour, mais tu peux pas alterner jour-nuit. Là. Au début, on était vraiment tous les extérieurs, nuit. Puis après ça, tranquillement, quand on était plus dans les intérieurs, on essayait de faire mi-jour, minuit, puis à la fin, on était de jour. Ouais.
Parle-nous justement de Sarah qui incarne Sacha. Est-ce que tu avais Sarah en tête déjà à l'écriture ou sinon une fois que tu étais en pré-prod ou c'est par les auditions qu'elle a décroché le rôle?
Non, pas à l'écriture, mais en pré-prod. Sarah venait de remporter au gala Québec Cinéma la révélation de l'année, mais aussi je l'avais vue dans Maria Chapdelaine, puis je trouvais qu'elle avait une aura de vampire, je sais pas pourquoi, les longs cheveux noirs, le regard mystérieux, puis je la trouvais très très bonne aussi, très charismatique. Je te lance des fleurs, Sarah, pendant que tu manges des nachos.
C'est le spécial le foodie.
Oui, c'est ça. Mais je l'ai quand même passé en audition parce que on se connaissait pas. Je voulais voir comment on travaillait ensemble, puis je voulais voir si c'était drôle. Puis il était drôle. J'étais bien heureuse de voir ça. Puis tu sais, drôle, mais d'une façon inattendue quand même dans le. Moi, je trouve qu'elle a un humour intelligent et fin et dans les détails. Et moi, j'aime. C'est ce que je voulais. Hein? Un humour fin, intelligent dans les détails. Mais tu sais, dans les petits regards, dans les malaises, une étrangeté, elle a amené une étrangeté, puis j'aimais beaucoup sa proposition, ouais. Et est-ce que vous voulez que je parle de Félix-Antoine?
Ben, on est lancé, oui.
Félix-Antoine, je l'ai découvert en audition, je le connaissais pas. Et c'était un coup de cœur. Il est arrivé avec un rôle, déjà une composition de personnage assez près de ce que je voulais. Puis ça m'a impressionnée. Puis c'est ça, c'était. J'ai pas mal eu un coup de cœur pour les deux, puis surtout quand je les ai mis ensemble et pour une audition. Croisé et c'était, il y a une petite magie qui s'est passée. Ouais. Eux, ils l'ont pas ressenti, mais moi, je l'ai ressenti.
Ça doit être une gêne de plus. Tu sais, t'as l'audition devant la production, devant l'équipe de réalisation, puis t'as aussi un nouveau comédien ou comédienne que tu connais pas pantoute, puis...
Ouais, ben oui, c'est sûr, ça fait partie parce que t'essaies d'accoutumer, essayer de comprendre un petit peu... OK, comment est-ce qu'elle voit la scène? Comment est-ce qu'elle voit ça? Mais comment elle est aussi comme personne? Parce que si ça marche, ben ça va être avec elle que je vais travailler. Fait qu'il y a comme... Puis en plus, c'est plein de personnes que tu connais pas qui te regardent, mais en même temps, ben, ça fait partie un peu de la job.
Puis c'est aussi déstabilisant de jouer avec un autre comédien alors que t'as pratiqué avec une réplique. Parce que surtout qu'on a refait les mêmes scènes, mais... Parce que j'ai fait une première audition avec une réplique qui était engagée. Puis ensuite, j'ai fait l'audition avec Félix. Mais on a refait les mêmes scènes. Donc, tu sais, t'es habitué à un certain rythme du texte ou comment la personne veut jouer ou même toi, tu te l'imagines. Puis avec Félix, moi, il m'a juste complètement déstabilisée. Puis c'était juste trop bizarre quand on auditionnait ensemble. Ouais. C'était hyper malaisant. Puis même qu'à l'extérieur, qu'on pratiquait avant de rentrer dans la salle où il y avait Ariane, les productrices... Ben, je me rappelle que, ben c'est ça, on se disait les répliques, puis on oubliait nos répliques parce qu'on était, on se regardait, on était comme, what?
Il y a des longs moments de trop silence bizarre. Parce qu'on se regardait.
Vous étiez tellement mignons.
Mais direct, c'est ça, en pratiquant avec toi, je fais, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Puis, mais c'est ça que t'as aimé, en fait.
Oui. Non, c'est ça, c'était ce... le... C'était comme un malaise attendrissant, puis tu sais, comme deux petits animaux qui s'apprivoisent, puis qui se comprennent pas, mais qui sont comme curieux. C'est ça que ça donnait, puis c'était
le bon ton un peu.
C'était le bon ton, exactement.
Mais là, ouais. Rendu au tournage, est-ce que tu voulais qu'il recrée cette espèce de première fois-là, ou...
Ben,
c'était quoi la scène, en fait?
C'était la scène quand elle l'amène dans sa chambre pour le mordre. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais après ça, tu sais, quand je leur ai offert le rôle, je leur ai dit ce que j'avais aimé, pourquoi et tout. Donc, ils comprenaient qu'il fallait qu'ils recréent le malaise, même si après, tu sais, vous êtes super bien entendus. Puis la chimie, assez, en tout cas, je parle pour vous, là, mais moi, j'avais l'impression que la chimie s'est créée assez rapidement entre vous.
Ouais, ben, vraiment.
Après.
Puis on a fait beaucoup de répétitions aussi. Ce qui
ouais,
fait que...
ouais.
Ce qui est rare quand même pour le cinéma québécois, ouais. Fait que c'est un petit luxe que vous avez eu.
Oui, ouais. C'est vrai.
Mais c'est drôle parce que j'ai peu de la difficulté à recréer. On n'a pas eu de la difficulté à recréer ce malaise-là parce que ça fait partie aussi de l'humour que vous avez apporté à vos personnages. Mais j'avais, tu sais, aucune idée que c'était pas composé pour l'audition. Puis que c'était un réel malaise. Fait que ça aurait pu être difficile de le recréer, mais non.
Et vous, Sarah et Félix-Antoine, qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario, dans ces personnages-là?
Ben, c'est un scénario de vampire québécois avec un titre vraiment incroyable. Donc, c'est sûr, c'est des facteurs qui sont aguicheurs au premier regard. Puis quand tu commences à lire le scénario, tu te rends compte que c'est super bien écrit, c'est super bien rythmé, les répliques sont drôles. Ils ont réussi à créer un monde de vampires vraiment approfondi, super créatif. Puis ben le personnage, ça me donnait l'occasion d'aller à quelque part que... c'était quelque chose qui était loin de moi. Puis c'était super plaisant de pouvoir faire ça. Fait que, toi...
mais je trouve ça tellement intéressant. Déjà, cette idée de faire un coming of age, mais de vampire, vampiresque, je trouvais ça tellement intéressant. Mais après, je savais que j'auditionnais et je lisais le texte par rapport au personnage de Sacha. Et juste, je pense que pour un acteur ou une actrice, jouer un personnage
monstrueux.
Pas monstrueux, mais. Pas super naturel, mais...
Ben, non humain.
Ouais, ben genre non humain.
Une créature.
Ouais, j'ai le mot, mais il vient pas, mais bref. Mais dans cette rangée-là, tu sais, c'est un truc qui a pas de base, vraiment. Oui, il y a certains codes associés au film de vampire, mais c'est pas un être humain non plus. Fait que c'est tellement intéressant d'avoir la chance de jouer. C'est ça, une zone qui est comme... qui peut être tellement vaste et on peut tellement explorer de choses. Et puis voilà.
Vous n'êtes pas passé à Tout le monde en parle, mais on va s'amuser. La question qui tue.
Oh.
Est-ce que c'est difficile d'avoir des dents de vampire dans la bouche?
Ben, c'est Sarah qu'il faut qu'il réponde, ouais, parce que c'est elle qui en avait.
Ben, en fait, je ne me rappelle plus du nom du monsieur qui faisait les prothèses.
C'était Bruno.
Bon, ben, Bruno. Vraiment homme talentueux, a moulé des dents par rapport à mes dents. Donc, on a fait, c'est des dents sur mesure.
C'est pas le truc du Dolorama.
Non, vraiment pas.
Ça paraissait plus clean que ça.
C'est
ouais.
Des dents sur mesure, fait que sont tellement bien faites que c'est vraiment pas compliqué.
Les as-tu gardées?
Ah oui, parce je compte me déguiser en vampire cet Halloween.
C'était-tu une perruque ou c'était vrai cheveux?
C'est mes vrais cheveux.
OK, fait que là, t'es gardé super dark, long.
Ouais, ben. J'ai pas changé la couleur, tu sais, c'est mes cheveux, okay. 100% mes cheveux, puis là, j'ai coupé.
Ouais, on lui avait coupé un toupette pour le rôle, puis Jean-Luc, le chef coiffeur, lui faisait toujours un petit triangle dans le toupette.
C'est ma signature.
La signature de Sacha. Puis par rapport aux dents, je peux dire une petite anecdote, je me souviens qu'au test caméra, Bruno, qui est l'artiste qui a fait les dents, il y a Sophie Cadieux, puis je sais pas si c'était toi ou Noémie, en tout cas.
Noémie, oui.
Ils arrivent pour me voir, pour valider les dents. Puis ils sont tellement longues, ils sont incapables de parler. J'étais traumatisée.
Ça ressemblait plus à des morses que...
Ça ressemblait vraiment à des morses. Puis là, Bruno, il me dit...
Ça va être le film Tosque québécois, là, c'est ça.
Là, Bruno, il me dit, t'aimes-tu ça? Je dis, ben... Essayez donc de parler, puis là, il était incapable. Tu peux-tu m'élimer? Donc là, après ça, il les a limés. Là, après, je trouvais qu'il était peut-être trop courte, mais là, il n'y avait pas de retour en arrière, puis c'était mieux de même, parce que vous pouvez... ça faisait plus naturaliste, puis vous pouviez parler. Ouais, parce que là...
Puis, écoute, t'as parlé un peu de l'équipe du film, mais c'est comme des visages connus, dans le sens que tu travailles souvent avec Sean Pavlin, ça?
Sean Pavlin,
puis Stéphane Lafleur, au montage, puis musique Pilou, puis j'ai écouté plusieurs de tes courts-métrages que j'ai trouvés à gauche puis à droite sur Vimeo, puis c'est souvent ces noms-là qui reviennent. Mm-hmm. Fait que c'est comme ta clique que t'avais besoin pour ton premier long, genre?
Ben oui, tu sais, quand on trouve des bons matchs, des bons collaborateurs artistiques, on se développe ensemble. Puis bon, là, je peux pas dire que je me suis développée avec Stéphane Lafleur parce que lui, ça fait plus longtemps que moi qu'il fait du cinéma. Puis je suis à la base fan de son cinéma avant de travailler avec lui. Puis on a commencé à travailler ensemble sur mon dernier court-métrage. Puis là, c'était notre deuxième expérience, mais je me sens comme une affinité artistique vraiment avec lui. Donc, je me sentais en confiance qu'il allait bien comprendre le ton que je voulais amener. Et Sean Pavlin, ben, j'ai fait tous mes courts-métrages avec lui, donc on se comprend très bien. On s'est développé ensemble au niveau de notre esthétique, notre langage. Donc oui, c'est... Puis Pierre-Philippe Côté, Pilou, même chose. Tu t'établis des façons de travailler avec ces gens-là, donc le plus possible, j'aime ça. Ouais. Petit à petit, on se crée notre famille de film en film.
Ouais. J'aimerais ça qu'on aborde une de nos scènes préférées, je pense, du film, celle où, évidemment, vous êtes dans la chambre et vous écoutez cette musique pendant un certain moment qui a un malaise ou une tension que j'ai bien aimé. Pouvez-vous nous parler de cette scène-là? Comment vous l'avez tournée? Est-ce que ça a été compliqué? Plusieurs prises parce qu'il y avait des fous rires?
Est-ce que je peux en parler, mais est-ce que ça vous tente de parler? Est-ce que tu veux en parler?
Ben oui, mais en fait, on l'a, ça faisait partie d'une des scènes qu'on a énormément répétées en répétition. Parce qu'il fallait vraiment, tu sais, il fallait trouver tous les...
Les jeux de regard.
Les jeux de regard, les bons moments dans la chanson où il se passait... telle affaire, je la regarde, elle me regarde en même temps, on regarde ailleurs, puis elle se met à danser, je me mets à danser aussi. Fait que c'était vraiment dans la construction de qu'est-ce qu'on fait, puis j'ai beaucoup écouté la chanson pour essayer de la connaître par cœur, puis savoir exactement à quel moment...
Ça devient une chorégraphie,
oui, dans le fond. Oui, non, c'était complètement ça.
Mais je pense qu'aussi, toi, t'es arrivé avec ton idée... que ton personnage allait de Paul allait suivre que les bases
du drame, ouais, tête, c'est ça. Ouais. Puis il se mettait à, c'est comme la manière que je voyais Paul, c'est qu'il il se met à focusser sur des petites choses, puis là il se met vraiment à essayer de les comprendre. C'est dans la même chose où est-ce qu'il... quand il se pose les questions dans la chambre juste avant ce petit moment là devant la table tournante, c'est ça. Il a dit par exemple, qui est allergique à quelque chose. Ah ouais, OK, comment ça? Puis il se met à accrocher à des petites choses comme ça. Puis en écoutant la musique, ben, c'était le drum que je pensais qu'il pouvait se mettre à danser.
C'était vraiment une bonne idée, ça. Ouais. Parce que c'est une scène qui était... je savais que ça allait fonctionner, mais on pouvait pas juste improviser quelque chose parce que ça aurait pu être juste long et plate. Et je voulais pas non plus qu'il se mette à danser de façon un peu comme...
arty.
Ouais. Donc, je leur ai dit écouter la chanson plusieurs fois, puis là, on se revoyait en répétition, puis on essayait de trouver ces petits moments-là, puis Félix-Antoine a trouvé l'idée de danser juste sur les beats. Ouais, je répète la même chose qu'on vient toutes de dire, mais...
C'est plus beau quand tu le dis.
C'est ça.
Mais c'était une chorégraphie qu'on a vraiment fait d'avance.
Mais ça aussi, on l'avait fait. Oui, on avait fait en audition jusqu'à ce moment-là aussi, je pense, à écouter la musique, puis...
Ouais.
Et on l'a, c'est plusieurs personnes demandent, des amis, quand ils ont vu le film au FNC, justement, me disaient « Combien de fois vous l'avez fait? » On l'a pas fait tant de fois que ça, parce que je pense qu'on l'avait tellement en répétition qu'on l'a refait peut-être 5-6 fois, mais c'est
comme
un plan normal que tu...
Ça n'a pas pris toute une nuit, toute une journée, c'est ça
s'est bien fait.
Non.
C'est le genre de moment aussi où est-ce que tout le monde après ça allait voir le moniteur, puis... On était comme, wow, c'était... on a fait quelque chose.
Il y a un jeu de lumière aussi, en plus.
Ben, c'est ça, puis ça aussi, c'était... Tu sais, je devais les diriger eux, mais tu sais, bon, j'ajustais entre les scènes, entre les takes, je veux dire. Mais la lumière, je faisais des signes comme, OK, là, ça se transforme. Tu sais, il y avait... Ça pouvait pas être juste... fait de la lumière quand ça vous tente. T'sais, je voulais que quand les deux se regardent pour la première fois en même temps, ils décident d'y retourner, là, ça commence à vaciller. Puis à la fin, en tout cas, tout ça était chorégraphié aussi, la lumière.
Toi, tu savais déjà, est-ce que dès le scénario, tu savais que ça allait être un plan fixe ou tu as hésité à faire du champ contre champ puis plein de choses? Puis...
Je savais que je voulais faire un plan fixe, mais j'hésitais peut-être à ajouter, à plus découper ce moment-là. Puis même que c'était prévu de faire un chant contre chant. Et finalement, quand j'ai vu le plan séquence, je me suis dit, j'irai jamais au chant contre chant. T'sais, ça va rien amener de plus. Puis ça, ça vivait très bien comme ça. Puis ça aurait cassé quelque chose, je pense. Donc on l'a juste pas tourné le chant contre chant.
C'est pas juste pour challenger Pascal Plante avec des plans séquences aussi dans tes films.
Non. Mais d'ailleurs, Pascal Plante, je lui ai montré le film, une version de montage là, pour avoir ses commentaires. C'est un ami. Puis,
ben, j'ai vu que tu étais collaboratrice au scénario
oui,
des Chambres
oui,
Rouges, c'est
oui,
ça?
Ben, oui, consultante, j'étais consultante, oui. Puis, il a dit c'est vraiment une belle scène. C'était sa scène préférée. En tout cas, je sais pas s'il a changé d'idée, là, mais... C'est ce qu'il m'a dit.
C'est la première fois qu'on décortique autant de scènes. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Fait que si vous n'avez pas encore vu le film, là, ça vaut la peine, ne serait-ce que pour ce moment de cinéma. Ouais.
Merci.
Et en terminant, ben, j'aimerais juste venir sur votre passage à Venise où tu t'es mérité un incroyable prix. Bravo.
Oui, merci.
J'imagine que les comédiens étaient aussi sur place pour vivre ça. Oui.
J'étais avec Félix-Antoine. Okay. Ouais. Ah oui, on était sur un nuage. Oui, oui, le bateau qui est venu nous chercher, le bateau taxi, là, on était tellement excités.
Ouais.
C'est ça. Vous étiez toutes pour la projection, mais la remise de prix, c'est quelques jours plus tard, c'est pour ça?
Ouais, c'était à la fin du festival, puis il restait juste nous deux.
Une semaine à Venise, genre?
Ouais.
Ah, c'est plate.
C'est plate, hein, mais j'ai changé 4 fois de logement, par exemple.
Ah,
j'avais
okay.
une valise de 30 kilos. Je veux pas me plaindre, là, mais... mais j'étais épuisée.
Puis, dernière affaire que j'ai remarqué, finalement, Sarah, t'es rendu le visage de l'automne, parce que Maria Chapdelaine était sortie en septembre, Falcon Lake l'an dernier. Ça, cette année, fait que c'est ta nouvelle routine, finalement.
Ben, ouais, hein, ça a l'air que ça s'est placé de même.
Les feuilles mortes.
J'adore l'automne.
T'aimes ça, te rouler dans les feuilles mortes?
Peut-être, Ariane.
Ben, c'est
je voulais juste dire le mot « feuille morte ».
C'est ça. Ah, mais oui. Là, c'est le premier film qui est vraiment très automnal. Là. Les autres
oui, c'est vrai.
Saison un peu différente. Puis, mais en fait, sans le savoir, t'es lié à notre podcast parce que chaque vendredi, on parle des nouveautés au cinéma puis on avait commencé genre le 24 septembre 2021, la sortie de Maria Chapdelaine.
Trop bien!
Mais on avait pas, on faisait pas encore d'entrevue avec l'équipe à ce moment-là, mais c'est ça.
Je pensais que t'allais dire que chaque vendredi, vous parliez de Sarah. Oui,
c'est ça. On suit ton Instagram, puis... As-tu vu sa story? Non, je sais pas. Non, ce serait vraiment creep, là, c'est ça. Non, on fait pas ça, malheureusement. Écoutez, si vous avez pas de questions pour nous, merci vraiment beaucoup.
Ben, merci.
Puis bon succès avec le film. Et si vous avez écouté ce podcast avant d'aller voir le film, j'espère que ça vous a convaincu d'aller le voir. Puis sinon, retournez le voir, c'est parfait. Vampire humaniste cherche suicidaire, consentant. Merci beaucoup, l'équipe.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
Donc, c'est avec grand bonheur que l'on reçoit deux invités. Je pense que ça va être assez intéressant parce qu'on connaît un peu mal leur métier. Donc, deux productrices du film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant.
Tout à fait.
Donc, on accueille Jeanne-Marie Poulain et Lynn Sander-Egelde. Et... Oui, ça...
oui,
désolé de massacrer ce nom.
Good enough,
oui,
comme on dit.
Good enough,
d'accord. Donc, bienvenue à cet épisode spécial qui porte sur votre film, que d'ailleurs Jean-François et moi avons beaucoup aimé.
Merci.
Merci. Peut-être commencer par le début. Qu'est-ce qui vous attire dans cette profession-là, dans ce métier-là?
Est-ce qu'on rêve de devenir productrice ou c'est comme un accident de parcours?
Ça dépend, mais il y a beaucoup d'accidents de parcours. J'ai l'impression.
Je pense qu'en cinéma, en général, c'est des accidents de parcours. C'est pas réel.
On se réinvente constamment, c'est un peu ça aussi.
Non, mais c'est ça. Ben, moi, j'étais complètement dans d'autres études. J'étais en médecine quand je suis arrivée en cinéma. Okay. Donc, gros changement de parcours. Toi aussi, tu viens de quelque chose de connexe, du journalisme?
Oui, mais je fais du cinéma avant. Donc, c'était le journalisme pour la télé. Donc, c'était direction... production, réalisation, mais j'ai assez tôt réalisé que j'étais meilleure en prod qu'en réalisation. Mais comme vraiment début vingtaine, je savais déjà que j'étais plus prod.
OK, tu n'es pas frustrée de ce changement de direction?
Pas de
là,
tout. J'ai fait, avant l'université, j'ai fait un an d'école de cinéma. J'ai réalisé un peu. J'ai commencé comme assistante producteur. Et j'ai réalisé que c'était mieux, ça fitait mieux.
Et Jeanne-Marie, qu'est-ce qui fait qu'on quitte la médecine pour aller complètement ailleurs dans le cinéma?
Une péricardite virale aiguë. Je fais qu'on quitte la médecine.
Ah ouais, OK, c'est l'enveloppe du cœur.
Oui, c'est ça. Ouais. J'ai eu un souci de santé. Passer du temps à l'hôpital m'a fait réaliser que je ne voulais pas y passer ma vie.
Okay.
Et en ne sachant absolument plus ce que j'allais faire, j'ai pris des billets pour Montréal. En fait, pour New York via Montréal, parce que je voulais aller suivre un cours d'anglais, je suis passée visiter mon oncle. Il m'a amenée à l'INIS en disant que, selon lui, fallait que je sois scénariste parce que j'aimais raconter des histoires. Je suis entrée à l'INIS. Je me suis très vite rendue compte que je ne serais pas scénariste, mais j'ai rencontré des productrices extrêmement inspirantes. Puis ça a été le début de la réflexion.
Ah, OK. Puis les deux, vous êtes chez Art et Essai, la boîte de production.
Oui.
Mais on connaît surtout pour le court-métrage, quand même. Je me trompe, là, il y en a...
C'est le sixième long de la compagnie, je pense. C'est une compagnie qui a été fondée en 2012 par Mathieu Denis. Il y a eu divers longs-métrages. On a été plusieurs producteurs à y travailler. Mais notamment, le premier long de la compagnie, si je ne me trompe pas, en termes d'ordre de sortie, ce serait... soit Prank, soit Ceux qui font les révolutions à moitié n'auront fait que se creuser un tombeau.
Okay.
Là, je ne suis plus trop sûre des dates de sortie, mais c'était proche.
Je pense que Prank était sorti à 20 de mémoire.
Ça doit être... Oui, c'est ça. Isla Blanca, Sashinka, Taposilis, Les Barbares de la Malbaie, et maintenant Vampire humaniste cherche suicidaire consentant.
J'avais regardé ça un peu tantôt, puis Barbare, moi, j'avais adoré. Là. Je sais que c'est un film qui n'avait peut-être pas trouvé son public tout à fait, mais c'était un de mes coups de cœur dans ces années-là. Là. Je trouve que des films de hockey au Québec, il n'y en avait pas tant que ça, puis j'aimais beaucoup l'angle qui avait été abordé dans ce film-là. Mais là, c'est peut-être pas vos œuvres personnelles à vous, là, mais...
Je l'avais produit avec mon collègue de l'époque, Hany Wishou. Mais c'était avant que je reprenne la compagnie en 2019, en fait.
Ah, OK. Ah, fait que c'est toi qui es rendu à la tête.
Oui, mais Lino est arrivé comme co-actionnaire l'an dernier avec un troisième co-actionnaire qui s'appelle Rémi Dufresne, qui est producteur créatif dans la compagnie.
Fait que est-ce que ce qu'on remarque, c'est que Ariane a quand même fait quelques courts-métrages aussi chez Art et Essai. Là, tu m'as parlé de Prank et des Barbares de la Malbaie. Je sais qu'il y a Eric Caboulian qui est associé à ces deux films-là. Je pense Marc-Antoine.
Oui, Marc-Antoine Rio.
Aussi, c'est ça. Fait qu'on navigue avec un genre de pool de talents finalement qui reviennent encore et encore. C'est un peu toujours la façon de faire ou c'est juste des affinités qui finissent par bien fonctionner pour que les gens reviennent et qu'on produise leur projet suivant, etc.?
Ben c'est ça, c'est une question d'affinité, c'est une question d'univers créatif. Avec Ariane, on a étudié ensemble. On a fait l'INIS il y a 10 ans maintenant. C'est là qu'on s'est rencontrés. Elle était en scénarisation, j'étais en production. Ça a été très naturel. On a fait un premier cours sans financement qui s'appelait Être elle, en préparation de La Peau sauvage. Ensuite, Les petites vagues, Les profondeurs. Et c'était naturel ensuite d'embarquer dans un long ensemble.
Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet-ci qu'elle vous a présenté, j'imagine? Ou comment est né ce projet-là?
Elle est arrivée avec Christine vraiment au tout début du développement. Et c'était un coup de cœur. Les films de genre, notamment ceux qui traitent de sujets vraiment universels puis qui servent du genre pour donner aux histoires une couleur supplémentaire, c'est vraiment des projets qui me passionnent. Donc, il n'y a pas eu de questions à se poser. On a développé pendant 3 ans. Puis, dans ce laps de temps-là, Lino est arrivé aussi. Donc, on a produit le film ensemble après l'avoir financé.
Puis, excuse-moi, ça m'a déstabilisé. comment on aborde... Est-ce qu'il y a une différence majeure entre aborder un court-métrage puis un long-métrage de votre côté au niveau de la production et tout? Ça peut pas être juste plus simple quand c'est un court-métrage ou, je veux dire, le rayonnement sera pas le même. J'imagine que tous ces deux produits complètement différents, d'une certaine manière. Je sais pas si ma question est trop ambiguë ou...
Moi, je pense que oui, c'est des produits différents.
C'est ça.
Mais normalement, ça fait du sens pour l'équipe, pour les réals, pour nous aussi, d'embarquer dans un long. Donc, et les longs sont aussi très différents. Il y a des gros, il y a des plus petits. Nous aussi, on a fait des projets longs, mais à un échelle beaucoup plus petit. Ça ressemble plus à des courts-métrages où ça, Vampire a vraiment été un autre game. De long-métrage.
Ouais, on peut avoir un court-métrage qui a 8 lieux de tournage différents, puis qui devient super ardu finalement et un casse-tête. Là.
Oui, oui, complètement. Ça dépend des écosystèmes, ça dépend des conditions dans lesquelles on les fait, ça dépend du contexte. Je veux dire, nous, Vampire, on l'a fait sortie de pandémie, post-inflation, beaucoup de tournages en même temps. On a eu une magnifique équipe, on a été incroyablement. On a eu beaucoup de chance d'avoir cette magnifique équipe parce qu'on était dans un automne où c'était peu de gens étaient disponibles, en fait.
C'était l'automne dernier, donc 2022, ouais. C'est ça? Okay.
Oui, ouais, on était à 12 jours du tournage il y a un an.
OK.
Et c'était quoi les plus grands défis que posait le film Vampire humaniste? Est-ce que c'est tourné beaucoup de nuit? Parce qu'évidemment, une grande partie, une portion du film, là, ça déroule... Sous une nuit, ouais, ça doit être pas évident gérer tout ça.
Je pense que oui, les nuits, le tournage de nuit, c'était un défi. On avait beaucoup de locations, comme vous avez vu dans le film, et ça, c'était un gros défi. Et le fait qu'on tournait vraiment à un moment qu'il y avait beaucoup, beaucoup de production. Donc, c'était difficile de trouver des gens, trouver des camions, trouver juste des choses de base était un peu compliqué. Donc... Mais ça, c'était le contexte. Ça a bien été. On a vraiment été chanceux, mais on a couru vite.
Oui, c'est ça, parce que là, en production, on n'est pas juste derrière un bureau. Là. Quand c'est le temps de tourner, vous êtes sur le terrain, vous aussi, à éteindre des feux.
Ouais, beaucoup. Puis on n'était pas toutes seules. D'ailleurs, il y avait d'autres membres de l'équipe d'Art et Essai avec nous. Il y avait Irène Besson, Annelle Begley, qui sont productrices associées sur le film, qui sont productrices dans la compagnie aussi. On avait un super directeur de prod, une régisseuse en or. On était bien entourés, mais comme dit Line, on a beaucoup couru. C'était vraiment... En fait, on a déposé en janvier, on a su qu'on était financé en juin, on tournait en octobre.
Okay.
C'est le laps de temps le plus court que j'ai vu de ma carrière. Je pense que ça arrive vraiment pas souvent, honnêtement. Et on l'a senti, c'était vraiment quelque chose de se jeter comme ça dans une prep en sachant que d'habitude, idéalement, on prend 8 mois de soft prep, puis après, oui, il y a 4 mois de pré-production, mais... Là, c'était très, très, très intense.
Est-ce que vous avez dû faire des concessions au scénario ou quoi que ce soit, vu le court laps de temps? Est-ce que ça a dû être adapté différemment?
Mais il y a eu un petit peu de réécriture en fonction de l'horaire, en fonction de certaines disponibilités, en fonction des lieux. Mais globalement, moi, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait une réécriture, elle améliorait vraiment le scénario, elle le rendait plus tight, on allait plus droit au but. Il y a quand même une différence entre un scénario de financement et un scénario de tournage.
Okay.
C'est rendu dans le cœur de l'action, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont peut-être qu'on peut mettre ailleurs ou on pourrait aller plus droit au but. Puis Ariane et Christine ont tout le temps été vraiment extrêmement diligente et minutieuse à ce sujet-là. Donc, chaque choix a été fait vraiment en ayant pesé toutes les conséquences et en étant sûr que le film n'allait pas en souffrir.
Et moi, j'aimerais ça que vous me parliez concrètement de votre travail. Qu'est-ce que ça fait un producteur?
Jamais la même chose.
Ça dépend de qui.
Ça dépend.
Je pense qu'on accompagne des projets dès le début jusqu'à la fin. Surtout, c'est vraiment une deuxième capitaine de bateau avec le Réal. Et quand ça va très bien, c'est des coexistences où tu es responsable de toutes les pratiques et tout le financement. Et les Réals sont responsables de le créatif. Et on essaie de faire, de travailler ensemble, de faire évoluer le projet dans le cadre qui est possible. Ça, c'est comme... Pour moi, c'est les grandes lignes de ce qu'on fait, d'essayer d'accompagner des réels et des projets dans la meilleure façon.
Oui, le mariage le plus heureux. On travaille beaucoup et très longtemps avec les scénaristes aussi. Les périodes de développement sont très longues. Moi, je sais que c'est vraiment un des aspects du métier qui me passionne le plus. On est les responsables légaux des projets aussi. C'est pas forcément un sujet sur lequel il y a besoin de s'étendre, mais c'est une nuance importante, moi, je trouve, dans notre métier.
C'est que vous êtes responsable de tout ce qui se passe et de tout le monde.
Absolument. En bout de ligne, c'est complètement ça.
Puis là, j'imagine que chez RSF, vous essayez d'avoir toujours des projets à différents stades de développement, dans le fond, là, pour ne pas se retrouver avec un trou. Bon, on n'a plus de film, on n'a plus rien en genèse ou quoi que ce soit. Fait que vous êtes en écriture, en recherche, vous savez que vous avez un tournage qui s'en vient peut-être. Ben, vous n'avez sûrement pas un tournage de tous les mois, là, mais mettons un par année peut-être, je ne sais pas.
Ben, on travaille sur différents médiums, alors on en a quand même plusieurs. Je veux dire, cette année, il y a eu plusieurs projets immersifs qui se sont tournés. Lino a produit un court. Irène vient de financer un long sur lequel il y a un début de prep qui est en train d'être fait. On a des projets en fiction, documentaire, format court et long, mais aussi de la série que Anaëlle, notre collègue, développe, de la réalité virtuelle. Il y a un premier podcast qui est supposé se faire l'an prochain, qui est en complémentarité d'un super beau court-métrage. Donc, ça fait qu'on est une équipe peut-être... on est 10 en ce moment, dont 5 prods. Mais on est tout le temps occupé et on essaye de se développer quand même des expertises par médium, en fait.
OK.
Et Ariane a remporté un très beau prix à Venise il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous étiez avec elle sur place? Comment avez-vous vécu ça?
Oui, on était là, mais pas pour le prix. Elle est restée, elle a reçu le prix, mais nous, on était partis au TIFF. Mais,
c'était pas des vacances non plus.
Non, non, elle a fait un petit détour de Montréal et on est parti.
48 heures pour faire des lessives.
C'est ça. Mais oui, on était à Venise, c'était vraiment incroyable.
Vous très avez beau senti, festival. Dès la projection, l'amour du public envers le film, c'était palpable.
Oui, ouais. On avait des super projections. Le public était vraiment embarqué dans l'humour, beaucoup de rires. Et après aussi, il y a beaucoup de monde qui est resté pour prendre des photos. Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle à Venise. C'était vraiment le fun d'expérimenter ça, le première du film.
Il venait parler aux comédiens, c'était vraiment, vraiment incroyable. Puis c'est vraiment un festival qui a son rythme à part, le fait qu'on soit sur des îles, on prend des bateaux pour se rendre d'un endroit à un autre, ça ressemble à rien d'autre. Puis c'est pendant la Biennale, donc c'est toutes les formes d'art ensemble aussi. Okay. C'était incroyable d'assister à ça.
Puis la projection comme telle est sous-titrée en anglais, j'imagine, à ce moment-là?
Et italien.
Okay.
Oui, donc ils font les deux, mais on avait fait une copie italien avec des sous-titres et là, ils font des sous-titres en anglais en bas.
OK.
Donc, tout le monde...
J'imagine, là, ça c'est un peu aussi le travail de la distribution, mais de commencer le parcours du film avec un rayonnement international comme ça, le TIFF, la Mostra, il y en a eu d'autres aussi festivals que j'oublie, puis les Venice Days, en fait, c'est ça. Ça doit être de bon augure pour déjà des ventes internationales et tout. Là. Une réception comme ça, je veux dire, c'est un film qui va couvrir tous les pays, je peux pas croire.
Mais oui, ça se passe vraiment bien pour l'instant. Puis on a vraiment un distributeur qui est aussi notre agent de vente, qui est incroyable, H264. C'est un rêve travailler avec eux. Ils sont ultra... ils sont partout. Ils essayent de propulser le film. Il y a tellement de belles opportunités. C'est vraiment... magnifique comme période en ce moment.
Ouais, puis c'est un quand même jeune distributeur, mais qui monte en ascension fulgurante là, dans ses projets et tout. Ouais.
Mais ils ont été fulgurants pas mal à chaque fois qu'ils ont lancé une nouvelle branche dans la compagnie. Okay. J'ai l'impression que les ventes ne feront pas exception.
En tout cas, on vous souhaite ce succès-là parce que c'est un film qui mérite d'être vu. On souhaite que le public va aller le voir, le découvrir, parce qu'il s'en fait trop peu de films de genre au Québec. Et puis, c'en est vraiment de qualité.
Merci.
Merci.
Et ça s'en vient. Il y en a d'autres qui s'en viennent, films de genre.
On sera là. Merci.